valeur que je sois cheap. Oui. Tenez, papa, ça fait un chèque pour vous, peut-être.
Parce qu'il n'y a rien de marqué dessus.
Vous marquez le montant que vous voudrez dessus, papa. J'ai peur d'être trop cheap.
Let's go!
Moi, t'en prends deux, moi aussi.
T'es-tu en train de capoter?
Mais non, je capote pas. Voyons donc, je suis cheap. Voyons donc, je m'excuse, je suis trop cheap.
Oh, je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, la petite vie, je me suis jamais tanné de ça, puis je la réécoute encore. Parce que mon dernier, qui a 14 ans, l'écoute à la maison, il est crampé, il rit, il a des grands, grands éclats de rire. Puis du temps que j'étais ministre, pas été là longtemps, vous allez me dire, mais pendant 18 mois, on avait la voiture ministérielle avec le chauffeur, puis là, il faut que tu l'utilises. Tu peux pas partir avec ton auto, là, faut que tu utilises ton garde du corps. Fait que la famille suit dans on fait une sortie de famille. La famille est assise dans la camionnette, parce que qu'est-ce que tu veux, tu as des enfants, tu prends pas une voiture, hein, tu prends une camionnette. Puis il y avait un système pour écouter les DVD. Fait que pendant tout le temps que j'étais ministre, on sortait, mettons, en famille, on allait voir la parenté. Les enfants écoutaient les épisodes de La Petite Vie. Fait que je les connais, j'en connais vraiment plusieurs. Et mon fils, donc, il était vraiment pas vieux, là. Je vous parle 2012-2014. Aujourd'hui, il a 14 ans. Il écoute encore La Petite Vie, puis il est encore aussi crampé qu'avant. Et donc, là, ça fait 25 ans. C'est pour ça que je vous en parle. Il y a 25 ans de ça, c'était la diffusion du premier épisode de La Petite Vie. Et on s'est dit, on peut pas laisser ça passer, là. Il faut souligner ça. Et on s'est dit, tiens, on va appeler Claude Meunier, on va lui demander s'il est disponible. Et puis, il l'est. Claude Meunier, auteur de La Petite Vie, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour. Je
m'appelle. Ben oui, mais merci de répondre.
Oui, ça va bien à date.
Oui, jusqu'à date, ça va très bien. Pourquoi, dites-moi, le secret de la longévité ou le fait que cet humour-là a bien vieilli. Parce que je vous donne l'exemple de mon gars, mais je suis certain que je ne suis pas le seul. Il doit avoir une raison.
Ben c'est vrai ce que vous dites. Il y a beaucoup de jeunes qui, des fois, il y a des jeunes, pas beaucoup, mais ça m'arrive que des jeunes m'accostent sur la rue et me disent « Vous, des fois, ça arrive-tu que vous avez une barbe? » Fait que il y a des jeunes qui sont m'écoutants. Oui, ça m'arrive. Le secret, c'est difficile. Il y a plusieurs facteurs. Je pense que d'abord, c'est très québécois, La Petite Vie. C'est vraiment... les gens se reconnaissent tous dans les personnages, en quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui me dit « Moi, mon beau-frère, c'est Reynald. » Ou « Moi, j'ai marié vraiment un Timé. » Ou « Moi, ma belle-sœur, c'est Lison. » Il y a beaucoup d'archétypes, je pense, comme des gens qui se reconnaissent. Mais il y a aussi le fait que c'est très, très... La Petite Vie, il y a une espèce d'optimisme dans cette émission-là. Une espèce de joie intense qui se dégage de tout ça. Et le jeu des comédiens est extraordinaire. Les comédiens sont tellement bons. Tu sais, puis je sais pas pourquoi. Puis c'est intemporel. Ça, c'est pas ancré dans le temps. Tu sais, y a pas de référence à l'actualité vraiment. Là, c'est burlesque. Les enfants aiment ça parce que c'est clownesque aussi.
C'est clownesque, c'est burlesque. Ouais, exactement. Mais quand tu, je vais te tutoyer parce que, bon, pas parce qu'on est des amis ou qu'on se connaît très bien, mais on a déjà fait quelques entrevues ensemble. Je ferai pas semblant, Claude. Quand tu parles de légèreté, tu as raison, tu me le fais réaliser. Tu sais, par exemple, j'ai un blanc de mémoire, la fille de papa puis maman qui, à un moment donné, elle a des petits problèmes d'affection, d'attachement.
Caro,
à un moment donné, les problèmes qu'elle vit, ça pourrait être tragique, ça pourrait être dramatique.
Ouais. Ben, c'est un des secrets de La Petite Vie. Souvent, les épisodes les plus drôles parlent de choses dramatiques. Caro, ses problèmes d'Oedipe, de relation avec son père. Exact. J'ai fait une émission qui était sur les hospices. J'ai fait une émission double sur l'hospice. Pour pas que maman rentrait à l'hospice. C'était pathétique, dans le fond. Puis il y a eu la pierre au foie. Au moment, elle était à l'article de la mort. Puis on lui demandait à quelle heure elle était pour mourir. Puis on essayait d'organiser ses funérailles avec Ikea. En tout cas, ça n'avait pas de bon sens. Mais c'est souvent des affaires dramatiques qui amènent la comédie parce que c'est stressant. Il y a un conflit. C'est toujours des conflits, hein, du mot. Les constructions comiques, dramatiques, c'est souvent des conflits. Mais ça parle au monde parce que il y a une espèce de vérité qui m'a échappé aussi à moi là-dedans. Je pense que c'est la part des comédiens dans le jeu. Les personnages sont tellement incarnés, les comédiens étaient tellement bons, ils ont complété, puis je sais pas. Tu sais, les costumes, les décors, tout est arrivé à bonne place au bon moment dans La Petite Vie. C'est ça qui est fabuleux.
Là, il faut rappeler que ça a duré 4 ans. Hein, c'est de 93 à 98. Corrige-moi si je me trompe.
Ouais, c'est qu'on a fait 4 saisons sur 5 ans. Parce que même, j'ai arrêté comme 6 mois pour pouvoir écrire, en tout cas. Mais ça a été 4 saisons, en fait. 4 saisons, ouais.
Est-ce que est-ce que ça a été dur ou est-ce que ça a été comme c'était en toi, puis à un moment donné, tu t'es mis à écrire un épisode, un deuxième, un troisième, puis ça a comme coulé, ou est-ce que ça a été un accouchement qui a été par moments difficile?
C'était pas, sincèrement, ça n'a pas été vraiment difficile. Ça a été beaucoup de travail, très ardu, dans le sens, beaucoup de temps passé à mon bureau. Je me rappelle, à un moment donné, je me disais, mon Dieu, que je travaille fort, puis j'arrête jamais. Comment ça fait que les gens ont le temps de prendre un café, eux autres, moi, j'ai jamais le temps. Mais cela dit, j'ai travaillé fort pendant à peu près 6-7 ans, très, très fort, puis aujourd'hui, j'en reviens pas comment ça marche longtemps. Le résultat est fabuleux, tu sais, que ça marche après 25 ans, c'est vraiment incroyable, tu sais. Puis ce qui est fabuleux, c'est que ça continue, c'est ça qui me remplit tellement, c'est vraiment un bonheur pour moi de vivre ça, tu sais.
Pourquoi c'est est-ce que tu as le sentiment d'avoir créé un monument qui va rester puis qui devient, dans le fond, qui devient une espèce de page d'histoire de notre culture? Parce qu'à un moment donné, je faisais une entrevue avec Patrick Lagacé, puis il me demandait c'était quoi ma définition de la nation québécoise. OK, on est sur la 20, puis je disais que, bon, enfin, bref, j'étalais un peu mes états d'âme, puis je m'inquiétais un petit peu de, j'appelais ça l'avenir du nationalisme, l'espèce d'esprit de famille, l'énergie vitale. Mm-hmm. Et j'y donnais l'exemple, je disais, tu sais, quand on écoute La Petite Vie, on rit tout en même temps sur le même gag. À un moment donné, on se retrouve autour d'une histoire, autour d'un moment magique, d'une réplique, d'un regard. C'est ça qui fait qu'on est un peuple. Et je veux dire, il y en a quand même pas beaucoup de séries comme ça qui vont avoir marqué l'histoire de notre peuple sur le plan culturel. Est-ce que c'est ça qui te rend fier?
Ben écoute, tu mets l'âme aux yeux. C'est très touchant ce que tu viens de me dire. C'est très gentil en même temps. C'est drôle, oui, j'ai le sentiment, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les gens qui ont fait que c'est devenu une série culte qui traverse le temps. J'ai la chance, écoute, parce que moi, c'est drôle, je suis un gars dans la vie un peu marginal, si on peut dire, surtout quand j'étais jeune, j'écrivais de l'absurde, puis tout ça, puis j'avais un ami qui me disait, toi, tu toucheras jamais vraiment tout le monde, tu vas toujours être un petit peu dans l'absurde, puis flyer, puis à côté de la traque un peu. Puis finalement, j'ai écrit ça, mais à cause des comédiens, à cause de tout ce que je disais tantôt, c'est devenu, j'ai eu un succès populaire incroyable. Et ça me fait vraiment, comment dire, j'ai l'impression que ça me met en connexion avec mon monde, avec la place où je vis. Puis depuis ce temps-là, je me sens plus du tout marginal, mais ça me fait vraiment plaisir. J'étais un peu un petit weirdo, entre guillemets, quand j'étais jeune, puis je suis devenu quelqu'un d'intégré, c'est pas que je voulais m'intégrer à la société, mais ça m'a permis de pouvoir communiquer avec les gens. Sinon, j'aurais peut-être en traitement psychiatrique. Mais
non, je penserais pas. Mais je comprends ce que tu veux dire.
Quelque chose, Bernard, quelque chose qui est drôle, une anecdote, justement, toi qui es en politique. À un moment donné, Jean-François Lisée m'a appelé dans le temps qu'il y avait une campagne pour juste dans le temps des élections.
Oui.
Dans le temps de la petite vie, puis il m'a dit, Claude, est-ce qu'on pourrait dire que papa et maman sont souverainistes? Alors, il m'a appelé pour me demander si on pouvait dire ça. Puis j'ai dit, on ne peut pas dire ça, parce que peut-être que papa est souverainiste, puis maman ne l'est pas. C'est 50-50. J'ai dit, moi, il y a peut-être 3-4 millions de personnes qui écoutent la petite vie, puis il y en a moitié qui sont et moitié qui ne sont pas. Je n'ai pas le goût de perdre la moitié.
C'est clair.
Vie, finalement.
C'est clair.
Ben oui.
C'est clair.
Ça m'a inspiré une émission, d'ailleurs, sur l'élection. J'ai fait un épisode sur les élections, d'ailleurs, à cause de ça.
Oui, d'ailleurs, est-ce que tu n'avais pas Bernard de Rome qui avait participé? Ça se peut-tu?
Il me semble qu'il n'y avait pas
le lecteur de nouvelles ou quelque chose qui était quelqu'un de connu là, qui avait participé. Peut-être que je me mélange.
Je ne me rappelle plus.
Tu parles de l'importance, tu as fait référence à quelques reprises, le jeu des acteurs, le fait que les comédiens ont vraiment comme habité leur rôle puis sont devenus pogo, ils sont devenus crotons. Est-ce qu'il est resté quelque chose de cet esprit qui devait être absolument délirant sur le plateau de tournage? Vous devez avoir eu des fous rires à un moment donné, vous aviez de la misère à finir le tournage. Et j'imagine, premièrement, et deuxièmement, y est-tu resté quelque chose de cette espèce d'esprit de famille qui devait exister entre vous tous?
Ah ben oui, on a vécu un moment, c'est comme avoir monté l'Everest ensemble ou avoir fait quelque chose de très spécial, très particulier. On est resté comme une famille parce qu'on vivait ça avec une intensité. Sérieusement, chaque fois qu'on en tournait une, on tournait devant le public, à chaque épisode, on avait toujours un peu peur que ça marche plus. On sait pas, on se disait, ça se peut pas que ça continue. Fait qu'on, c'était très intense, on travaillait très fort, on se voyait, ça prenait une semaine de monter un épisode avant le tournant. Si on répétait une semaine de temps, on tournait le lundi suivant, ça marchait comme ça. Puis, il y avait une espèce d'intensité, une espèce de... Mais on a vécu quelque chose en commun, puis on est encore vraiment comme une famille. Comme là, on va enregistrer une émission des enfants de la télé en fin de semaine. Et puis, on a tous hâte de se revoir, c'est sûr. Hier, j'ai croisé Rémi Gérard par hasard dans un événement, puis on est bien content de ça. On sent ça, on a vécu quelque chose de bien particulier. Ouais. C'est comme une équipe incroyable.
J'allais dire l'image de la chambre des joueurs. C'est comme
exactement.
Si...
Exactement, hein, ça continue parce que ça joue encore, puis tout le monde s'en fait parler. Alors, au début même, les comédiens, ils n'aimaient pas ça toujours nécessairement, se faire appeler le Red Bull à l'orange ou... se faire parler de pâté chinois tout le temps pour Thérèse, mais à un moment donné, tout le monde s'est fait à l'idée, on dit coudon, c'est comme ça. Ouais.
Mais non, c'est un phénomène culturel.
C'est la rançon de la gloire.
Ouais. Quand tu dis ça prenait une semaine à répéter, est-ce que vous étiez sur place là où vous tourniez, vous répétiez pendant une semaine là où vous alliez le tourner le lundi?
Non, c'est-à-dire qu'on a répété en salle de répétition. Pour faire une histoire courte, on lisait les textes une fois, puis là, deux, trois fois. C'est-à-dire, on lisait les textes, moi je corrigeais, lisais. Là, on arrivait dans la salle de répétition, on répétait deux jours. Puis moi, je corrigeais, il recevait une autre version. Puis là, on répétait toute la journée en studio. On tournait devant le public à 5h30 l'après-midi. Après le premier tournage, on sortait le public. Moi, je prenais les textes avec Joseph Ortiz, je corrigeais les textes. Joseph allait donner les textes aux comédiens. On faisait une deuxième prise avec un autre public. On faisait deux enregistrements avec deux publics différents tous les lundis soirs.
Et là, vous faisiez le montage avec les meilleurs moments dans le
film. Avec les meilleurs moments. Puis curieusement, ça variait de... Souvent, c'était un petit peu meilleur dans le deuxième parce qu'on savait où étaient les rires. Des fois, quand on jouait la première fois devant nous, on ne savait pas vraiment où étaient les rires. On savait, on se doutait bien qu'il y avait des punchs, mais des fois, ils partaient à rire à d'autres places, puis on était un peu débalancés. Mais non, c'était toujours un thrill incroyable. C'était comme une première à chaque fois, tu sais.
Alors
toujours
là,
dans le public. Ouais.
Ben, j'allais te dire, j'ai des textos qui rentrent présentement, Claude Meunier. Il y en a un, Julien, qui m'écrit, il dit « Mon oncle était ambulancier dans le temps de la petite vie. Il me disait que le soir des diffusions, c'était plus tranquille, il y avait moins d'appels. »
Oui, ben j'ai déjà reçu un courriel. On avait un courriel à l'époque un fonctionnaire ou un sous-ministre du ministère de la Santé qui nous a écrit « Continuez, il y a moins de monde aux hôpitaux le lundi soir. » On
et a juste, de l'argent à la province. Tu vois, il y en a un qui m'écrit, là, où une, « La petite vie, c'était fabuleux. J'étais enfant, mais c'était un bon moment en famille à tous les lundis soirs. Merci, la petite vie. » Et on m'indique, mes auditeurs sont très allumés, Claude, on m'indique que c'est Patrick Lécuyer, pas Bernard de Rome, qui avait joué dans l'épisode dont je parlais. Là.
Ah oui, c'était Patrick Lécuyer et Patrick Huard qui faisaient Charret, puis l'autre qui faisait le Lucien Bouchard.
Voilà.
C'était des paradis. Ouais, il y avait deux slogans, c'était « Le Québec, c'est demain, puis demain, c'est le Québec », ou « L'avenir, c'est demain, puis demain, c'est l'avenir ». C'était les deux slogans, les deux parties.
Bravo, encore une fois, félicitations. Je suis très content
merci
de t'avoir parlé. Puis
c'est
je pense qu'on est quelque part dans la... On est quelque part dans l'immortel, Claude Meunier. Puis ça, c'est extraordinaire. Moi, je nous trouve très chanceux d'avoir vécu ce moment-là. Puis vous nous avez tellement donné de beaux moments, notamment en famille. J'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment vrai, là. Des fous rires en famille, là, on en a eu. Je pense, sérieusement, je réalise au moment où je te le dis, je pense que j'en ai eu plus à regarder La Petite Vie qu'à tout autre moment. Là. Le nombre de fous rires concentrés en 30 minutes, là, c'est hallucinant. Je rappelle que tu es l'auteur de La Petite Vie, puis tu étais papa, puis tu es bien d'autres choses. Claude Meunier, merci encore.
Merci Bernard, c'est très gentil.
Salut, à la
bonjour
prochaine.
Bonjour tout le monde, merci.
Salut. Luc Lavoie, s'en vient.